Bienvenue. Bienvenue pour le premier épisode de Déclencheur, le podcast qui parle photo. Si vous avez raté l'épisode d'introduction, je vous présente rapidement Déclencheur. C'est un nouveau podcast pour parler de la photographie. Par parler de la photographie, je veux dire qu'on va couvrir toute une série de thèmes liés de près ou de loin à la photo. Ce pourra être des thèmes techniques. Par exemple, pour ce premier épisode, je vais parler de la balance des blancs. Ce pourra être des thèmes de techniques photographiques. Par là, je veux dire cadrage, composition, éclairage. Ce pourra être des thèmes consacrés au plaisir de la photo, à la passion de la photo, des thèmes consacrés à l'utilisation de la photo dans le travail, dans la vie quotidienne, bref, un panel très large de sujets liés de près ou de loin à la photographie. Si le podcast vous intéresse, je vous invite à vous abonner ou à laisser un commentaire sur le site web www.déclencheur.com. Notez que vous pouvez à la fois vous abonner et laisser un commentaire. Une boîte vocale est également disponible et je donnerai toutes les informations pour la boîte vocale à la fin de cet épisode. J'ai préparé deux segments pour cet épisode. Un petit édito pour vous présenter un livre que je trouve extrêmement intéressant qui s'appelle « Éclairer pour la prise de vue » de Henri Rossier et qui est paru aux éditions VM. Et le thème principal de l'épisode qui, comme je le disais tout à l'heure, est en fait la balance des blancs. La balance des blancs, c'est le paramètre fondamental pour avoir des couleurs correctes dans vos photos. Et donc ça m'a paru être idéal comme premier sujet pour un premier épisode. Commençons donc par l'édito et par le livre « Éclairer pour la prise de vue » de Henri Rossier, qui, je le rappelle, est paru aux éditions VM. Alors c'est un livre extrêmement intéressant et qui, je trouve, n'a pas bénéficié de la part de l'éditeur de la promotion qu'il mérite. J'avoue que je l'ai trouvé tout à fait par hasard en librairie. J'en avais pas entendu parler dans la presse photo et c'est dommage parce que c'est vraiment un très très bon livre. L'objectif d'Henri Rossier était de nous introduire à toute une série de techniques d'éclairage pour améliorer la manière dont on travaille en photo et la manière dont on prend nos prises de vue. Des livres consacrés à l'éclairage, il y en a beaucoup. Mais ce qui rend celui-là particulièrement intéressant, c'est qu'Henri Rossier ne fait pas, comme c'est souvent le cas, l'hypothèse que nous avons un studio super bien équipé, très cher, mais il fait plutôt l'hypothèse que nous allons travailler avec le matériel qu'on trouve dans la maison, un petit peu de bricolage, et chercher en fait à mettre en place des solutions à des tarifs tout à fait abordables. Et néanmoins, il va nous montrer comment avec ces techniques, avec ces matériaux simples, on peut construire des images qui sont d'une qualité tout à fait professionnelle. Le livre est très très accessible, il est organisé en fait autour d'une série d'exemples, et pour chaque exemple, on a une espèce d'avant-après. L'avant, c'est la photo prise en tout automatique, l'après, c'est la photo prise en ayant pensé son éclairage. Donc la comparaison des deux cas, les explications, les diagrammes, les photos de matériel qui accompagne le livre rendent la lecture très très claire et je crois qu'on acquiert très vite les différents concepts et on acquiert très vite et très bien en faisant quelques essais les différents concepts que l'auteur veut présenter. Le livre donne aussi, puisqu'il est organisé autour de thèmes, il donne aussi des espèces de petites recettes pour rapidement, facilement éclairer certains types de sujets. Et là, en l'occurrence, il couvre un panel assez large. Il démarre avec les chandelles pour des éclairages un petit peu romantiques, des éclairages d'ambiance. Il parle de l'éclairage de verre, de bouteille, donc les sujets transparents, les sujets entraînant des réflexions. Il parle d'architecture, il parle de maquettes, il parle d'éclairer des tableaux, des œuvres d'art. Il parle également d'éclairer des objets de collection, tels que des bijoux, des pièces, des timbres. Et enfin, il parle d'éclairer le portrait. Donc vraiment, le panel, on le voit, est large et devrait satisfaire la plupart des photographes. Si vous voulez aller plus loin en photographie, que vous n'avez pas aujourd'hui une bonne compréhension de l'éclairage, je crois que c'est vraiment le livre à lire. Parce que comme je le disais tout à l'heure, vous allez pouvoir, avec du matériel qui est sans doute déjà présent dans la maison, pouvoir monter des éclairages professionnels et avoir des résultats très vite, très rapidement. C'est donc très très intéressant. Vraiment le livre, je le recommande. Tant que je suis en train de donner des propositions de lecture, un deuxième petit conseil, le magazine Le Photographe du mois de mars, donc il faut vous dépêcher parce qu'il ne sera plus très longtemps en kiosque, comprend un supplément spécial sur le marché de la photo et l'évolution du marché de la photo. Si vous aimez voir un petit peu suivre un petit peu les évolutions, voir les nouveautés, voir ce qui se prépare à l'avenir, c'est un livre tout à fait intéressant. Donc plutôt c'est un magazine. J'en arrive donc au thème principal de l'épisode qui est la balance des blancs. Alors la balance des blancs, je le répète, c'est le critère numéro 1 pour avoir des photos aux couleurs correctes. Je dirais quand la balance des blancs est correcte, les couleurs de vos photos sont correctes à 80-90% des cas. Si la balance des blancs est incorrecte, vous risquez d'avoir des photos rouges, vos personnages ressemblent à des peaux rouges, voire dans certains cas des photos qui vont être vertes ou des photos qui vont être bleues, bref des photos qui ne seront pas agréables à regarder. Alors comprendre la balance des blancs, c'est très simple. Si vous êtes déjà allé au théâtre, si vous avez déjà vu un concert, vous savez que quand un spot rouge s'allume et éclaire la scène, on a l'impression que la scène elle est rouge. Si un spot bleu éclaire la scène, on a l'impression que la scène elle est bleue. Eh bien, ce phénomène qui veut que le sujet reprenne la couleur de l'éclairage est vrai quels que soient les éclairages. Alors, en pratique, on n'utilise pas chez soi un spot rouge pour éclairer son sujet, mais on va peut-être utiliser une ampoule. Et l'ampoule est là une certaine couleur, qui est d'ailleurs un petit peu rouge, et donc elle va colorer le sujet. Si à l'inverse, on fait la photo en extérieur, sous le ciel il est bleu, et donc il va colorer un petit peu le sujet en bleu. Je répète, c'est beaucoup moins marqué qu'un spot, mais le phénomène est un petit peu le même, c'est-à-dire que la source lumineuse influence les couleurs du sujet. On ne s'en rend pas vraiment compte dans notre vision de tous les jours, parce que le phénomène n'est pas très marqué, et surtout l'œil a tendance à uniformiser les couleurs pour nous. Si par exemple vous prenez un livre et que vous le lisez à la lumière d'une ampoule, et puis que vous voulez le finir le lendemain matin dans le jardin à la lumière du soleil, vous n'aurez pas l'impression que le livre est rouge, il était rouge à l'intérieur et puis va devenir bleu à l'extérieur, vous aurez l'impression que les pages sont bien blanches. En fait, le cerveau fait une espèce de petit tour de passe-passe, il sait que les pages du livre doivent être blanches, et donc il nous le présente comme étant blanc. La problématique de la balance des blancs, c'est faire la même chose avec un appareil photo. C'est-à-dire qu'il faut que l'appareil photo, quand il photographie un sujet blanc, eh bien il faut que le sujet nous apparaisse blanc, même s'il a été éclairé avec une source de lumière qui était un petit peu bleue ou un petit peu rouge. Et pour ce faire, l'appareil photo fait une série de calculs, une espèce de filtrage de couleurs sur l'image, et ce filtrage de couleurs s'appuie sur la température de couleur, c'est le paramètre, la température de couleur de la source lumineuse. Alors la température de couleur, c'est la mesure justement de la coloration de la source lumineuse. On la mesure en degrés Kelvin, et par exemple une ampoule, telle qu'on trouve dans la plupart des maisons, a une température de couleur autour de 2500 degrés Kelvin. L'halogène est à peu près à 3000 degrés Kelvin. Ça ne veut pas dire qu'il y a 3000 degrés de température, chaleur, ça veut dire que la couleur est mesurée comme étant une couleur de 3000 degrés Kelvin. Pour vous donner une idée, le soleil est mesuré aux alentours de 5400-6000 degrés Kelvin, donc pratiquement le double. Et un ciel très couvert, qui va donc être un ciel beaucoup plus bleu, il mesure aux alentours de 8 à 9000 degrés Kelvin, donc on rajoute encore 3000 degrés Kelvin supplémentaires. Notez que la mesure ainsi officielle de la température couleur en degrés est un petit peu contre-intuitive. Hein. On a tendance à dire que quand les tons sont rouges, ils sont plutôt chauds. Or, un ton chaud, il est à 2500-3000 degrés Kelvin. Alors que le ciel qui est bleu, lui, va être à une température de couleur plus élevée. Donc, ce n'est pas directement en relation avec le fait que le ton soit chaud ou le ton ne soit pas chaud. C'est vraiment une mesure tout à fait indépendante de la température, de la coloration plutôt, de la source lumineuse. Le phénomène n'est pas nouveau et n'est pas lié spécifiquement au numérique. Les films aussi sont prévus typiquement pour une utilisation en extérieur. Et donc, si on veut les utiliser en intérieur sous un éclairage type halogène, type ampoule, eh bien, il fallait dans l'idéal visser un filtre devant l'objectif, un filtre bleu, qui allait compenser le fait que la source lumineuse avait une certaine coloration. En pratique, c'est des choses qui étaient réservées aux professionnels, mais on voit l'intérêt du numérique. Ce filtre bleu, on en a fait un algorithme, et cet algorithme, on l'installe dans tous les appareils photo, ce qui veut dire qu'en fait, on a maintenant une flexibilité et une capacité à faire des photos d'une qualité nettement supérieure à ce qu'un amateur pouvait espérer faire avant. Concrètement, comment est-ce qu'on va utiliser la balance des blancs? Mais je crois qu'il y a 5 formules pratiques. Et les formules se résument toujours à bien connaître son appareil et faire quelques essais. Voir les sources lumineuses qui mettent votre appareil en difficulté et compenser pour ces cas de figure-là. La formule numéro 1, c'est de faire tout en automatique et de se dire qu'on corrigera les choses par la suite dans Photoshop. C'est pas ici la bonne technique. J'ai rien contre Photoshop, je suis un grand utilisateur de retouches et de peaufinage des photos en Photoshop, mais en l'occurrence, la balance des blancs est un filtre déjà assez puissant. Et si le filtre a été mal calculé par l'appareil photo et que vous essayez de l'annuler par la suite dans Photoshop, vous aurez des effets sur la photo qui ne seront pas beaux. Par exemple, vous aurez une forte montée du bruit. Donc, ce n'est pas la bonne formule. Néanmoins, parfois, on s'est trompé et donc il faut corriger un petit peu le tir. Et si c'est le cas, la technique est de venir rajouter sur la photo un calque contenant soit une courbe, soit les niveaux. Tant la courbe que les niveaux ont, dans la fenêtre de dialogue qui s'ouvre, 3 petites pipettes qui sont représentées en bas à droite. La pipette centrale est en fait la pipette neutre. Vous prenez la pipette neutre et vous allez cliquer dans la photo sur un objet neutre, un objet gris. et Photoshop va recalculer une courbe qui va agir comme une espèce de filtre pour compenser l'erreur de la balance des blancs. Alors, c'est pas idéal comme je le disais, ça va faire monter le bruit, mais ça peut permettre de récupérer des photos qui par ailleurs auraient des couleurs qui ne sont pas bonnes. La deuxième formule est d'apprendre à connaître un petit peu son appareil photo, faire quelques essais en numérique, ça coûte pas cher, et repérer les sources lumineuses qui vont le mettre en difficulté. Avec la plupart des appareils photo, il s'en sort très bien tant que les photos sont prises en extérieur. C'est en intérieur, sous des sources lumineuses, sous des éclairages artificiels, que l'appareil photo va être pris en difficulté. Eh bien, il suffit d'apprendre à reconnaître les sources qui posent problème à votre appareil. Et alors, quand vous voyez que vous êtes en train de faire une photo sous une de ces sources lumineuses, avant de faire la photo, vous allez dans le menu et vous réglez manuellement la valeur de la balance des blancs. Je vais vous renvoyer au mode d'emploi de votre appareil pour savoir exactement quelle touche appuyer pour activer le réglage de la balance des blancs. Mais en général, il s'agit d'un menu marqué WB, White Balance. Mais de nouveau, allez consulter le mode d'emploi de votre appareil pour la démarche précise. La plupart des appareils photo vous laissent alors le choix entre 4 ou 5 valeurs standards qui vont correspondre à une ampoule, une photo au néon, le soleil ou une photo en extérieur. Attention à ne pas confondre soleil et ampoule, les pictogrammes sont parfois fort ressemblants et il y a quand même pratiquement 3000 degrés Kelvin de différence entre les deux. Donc c'est pas idéal si vous les confondez. Vous réglez la balance des blancs dans le menu, vous ne vous en occupez plus, l'appareil photo maintenant connaît la température de couleur de la source lumineuse et donc il va générer des photos qui seront tout à fait superbes avec des couleurs magnifiques. Le seul risque avec cette technique, c'est d'oublier de remettre l'appareil en automatique quand on change de sujet et quand on change de source lumineuse. Donc soyez attentif et de temps en temps, jetez un œil sur l'écran pour vérifier que la balance des blancs est toujours correcte. La troisième technique, c'est peaufiner et affiner la technique précédente. J'ai dit tout à l'heure, on va dans le menu et on choisit une valeur standard correspondant à la source lumineuse. Les valeurs que l'appareil propose sont des moyennes. Il faut savoir qu'une ampoule, par exemple, n'a pas la même température de couleur selon que c'est une ampoule 40 watts, une ampoule 60 watts, une ampoule 100 watts. Donc il est évident que la valeur que l'appareil utilise est une valeur moyenne. Si vous voulez des couleurs vraiment parfaites, ce qu'il faut c'est mesurer la température de couleur de la source lumineuse que vous utilisez. Heureusement, pour faire cette mesure, il ne faut pas d'appareil spécialisé, l'appareil photo est tout à fait capable de le faire. Tout ce qu'il faut c'est une cible neutre. Vous photographiez cette cible neutre et l'appareil applique un petit algorithme pour en déduire la température de couleur de la source lumineuse. Cible neutre, ça veut dire quoi ? Généralement, ça veut dire une cible grise. L'objectif, en fait, c'est d'avoir un objet qui réfléchit uniformément tout le spectre des couleurs. Donc, il va réfléchir aussi bien le rouge, le vert que le bleu. Ce qui veut dire que si votre source lumineuse, ou plutôt comme votre source lumineuse, a une déviante et va être un peu plus forte en rouge, en vert ou en bleu, eh bien, ça va se montrer, évidemment. L'objet, la photo prise, ne sera pas parfaitement grise, elle sera un peu trop rouge, un peu trop bleu, un peu trop verte. Et donc là, on peut en déduire la température et on peut mesurer à quelques dizaines de degrés près la température de couleur de la source lumineuse. Les meilleurs objets neutres, les meilleures cibles neutres sont en fait des cibles grises. C'est de nouveau un petit peu contre-intuitif, on se dit balance des blancs, donc ça voudrait dire que je devrais photographier quelque chose de blanc. Et on va penser par exemple à photographier une feuille de papier. Attention, évitez ça, préférez un objet gris et un gris neutre. Préférez un objet gris parce que les feuilles de papier blanches ne sont souvent pas parfaitement blanches. Il y a dedans des agents de blanchissant qui vont de nouveau faire varier un petit peu la couleur et l'amener un petit peu vers des couleurs un peu différentes. Donc la mesure que vous ferez ne sera pas fausse de plus de 100, 150, 200 degrés, mais elle ne sera pas aussi précise que si vous utilisez un objet gris. Et traditionnellement, ce qu'on utilise pour faire cette mesure, c'est une carte Kodak, qui est en fait une carte qu'on vend en magasin photo, qui est normalement vendue pour faire une mesure d'exposition. Et là, vous prenez la carte Kodak et vous calculez votre balance des blancs avec la carte Kodak. L'inconvénient de la carte Kodak, c'est que c'est une carte en carton, ce qui veut dire qu'elle n'est pas super résistante. Si on l'emmène tous les jours, elle va s'abîmer. Et donc là, il y a d'autres produits qui visent à faire exactement la même chose, mais qui vont être un petit peu plus résistants. Moi, j'en connais deux. L'Astolide vend une espèce de petit réflecteur qui est en fait une cible grise que l'on replie comme les petits réflecteurs de l'Astolide. Donc on déplie avant de faire la mesure, qu'on replie et qu'on range dans le sac photo. Il n'y prend pas beaucoup de place. Personnellement, j'utilise une cible qui s'appelle le Y-Ball et je vais revenir sur le Y-Ball dans un instant en vous présentant la quatrième technique qui est de travailler en RAW. RAW, c'est le format des pinailleurs. c'est le format, si vous voulez, des couleurs qui sont vraiment parfaites, parfaites, parfaites. Le principe de RAW, c'est d'enregistrer l'image telle que le capteur de l'appareil photo l'a enregistrée. Et donc de n'appliquer dans l'appareil photo aucun des traitements que l'appareil applique normalement, et en particulier de ne pas appliquer la balance des blancs à la photo. Tout ce traitement que l'appareil photo fait normalement, on le fait par la suite sur l'ordinateur, sur un Mac, sur un PC, à l'aide d'un logiciel spécialisé qu'on va appeler en fait justement un développeur. L'intérêt de la formule, c'est comme vous faites toutes ces opérations que vous auriez fait, toutes les sélections que vous auriez fait normalement dans le menu de l'appareil, vous les faites a posteriori sur le Mac, sur le PC, ça veut dire que vous pouvez les faire varier à l'infini. Donc vous pouvez essayer une balance des blancs, vous constatez qu'elle n'est pas bonne, vous refaites un essai avec une autre balance des blancs et vous variez comme ça jusqu'à obtenir vraiment l'image que vous voulez. Et contrairement à ce que je disais tout à l'heure en disant attention, dans Photoshop il est trop tard parce que le filtrage de la balance des blancs est un filtrage puissant et donc s'il a déjà été appliqué sur la photo, il est trop tard pour venir essayer de corriger ça dans Photoshop. Ici on est avant le filtrage puisque je le rappelle, l'appareil photo n'a pas appliqué ses algorithmes à la photo. Donc ça veut dire que vous avez toutes les données brutes et donc vous pouvez à ce moment-là appliquer le filtrage aussi puissant que vous voulez sur la photo et vous aurez un résultat vraiment, vraiment parfait. Les inconvénients du RAW, c'est que les fichiers sont beaucoup plus gros qu'en JPEG, donc il faut des cartes plus grosses et puis qu'il faut traiter toutes ces photos après sur le Mac ou sur le PC. Donc ça prend un petit peu plus de temps, mais bon, je reviendrai sur le format RAW parce que je suis un petit peu pinailleur et donc c'est le format que moi j'utilise. Un gros avantage du format RAW pour la balance des blancs, c'est qu'il vous permet d'appliquer la balance des blancs a posteriori. Et donc ça veut dire que vous pouvez mesurer la température de couleur, comme je disais à l'instant avec une carte grise, vous pouvez prendre cette mesure n'importe quand dans la session photo. Ça veut dire que vous arrivez quelque part, il se passe quelque chose, vous faites vos photos, puis vous dites « Ok, maintenant j'ai fini mes photos, je sors ma carte grise, je mesure la température de couleur ». Vous n'avez pas appliqué la température de couleur à ce moment-là à aucune de vos photos. Vous l'appliquerez par après sur le Mac. Vous ferez simplement un copier-coller de la valeur et vous la recollerez sur toutes les photos de la session. Prenons un exemple où c'est très utile. Imaginons que vous soyez en train de photographier une fête. Le buffet est à l'intérieur. Le reste de la fête se déroule en extérieur. Ça veut dire deux éclairages différents. Si vous voulez aller dans le menu chaque fois que vous rentrez pour changer la valeur de la balance des blancs, remettre dans le menu chaque fois que vous sortez pour rechanger la valeur de la balance des blancs, vous pouvez le faire, moi j'y arrive pas, ça m'ennuie. Donc ce que je fais quand j'arrive sur place, je fais une photo de ma cible à l'intérieur pour avoir la mesure de la balance des blancs en intérieur, je fais une photo de ma cible en extérieur, puis je fais mes photos sans plus me préoccuper de la balance des blancs. Et c'est par la suite, quand je vais arriver sur le Mac, que je vais trier mes photos, sélectionner toutes les photos prises en intérieur et copier-coller la bonne balance des blancs, sélectionner toutes les photos prises en extérieur, copier-coller la bonne balance des blancs. Donc on voit que par rapport à ce genre de situation un petit peu difficile, le RAW est un format qui peut se révéler beaucoup plus flexible. La cinquième technique, c'est un petit peu un clin d'œil, c'est d'ignorer complètement le problème de la couleur et de photographier en noir et blanc. Ça paraît un peu radical, mais réfléchissez. Vous avez pris une bonne photo, la composition est bonne, l'exposition est bonne, le sujet est vraiment une belle expression, mais il est rouge. Et vous n'arrivez pas à éliminer le rouge. Si vous imprimez la photo comme ça, eh bien ce qu'on va voir, c'est une photo avec un sujet avec des couleurs pas normales et on va pas trouver la photo très jolie. Vous éliminez les couleurs, vous éliminez le problème, vous avez une photo noir et blanc superbe. Quand on la regarde, tout ce qu'on voit, c'est une photo bien exposée, avec un beau sujet et une belle composition. Donc retenez le truc, quand une photo est intéressante, mais a une balance des blancs incorrecte, la passer en noir et blanc est une solution très très pratique. Donc si je dois résumer un petit peu les différents conseils concernant la balance des blancs, donc je dirais, premier conseil, apprenez à connaître votre appareil photo. Apprenez à connaître les sources lumineuses qui vont le mettre en défaut. En général, sont des sources à l'intérieur. Et quand vous êtes confronté à ces sources lumineuses-là, allez dans le menu et faites le correctif à la main. Deuxième conseil, si vous avez une photo un peu compliquée et que la couleur est importante, travaillez en RAW. C'est de loin la formule la plus pratique parce que vous pourrez faire les adaptations de balance des blancs a posteriori sur le Mac ou sur le PC. Troisième conseil, oubliez Photoshop. Vous n'arriverez pas à faire de grosses corrections de balance des blancs dans Photoshop, sauf à sacrifier d'autres éléments dans la photo. Donc vous pourrez peut-être récupérer les couleurs, mais vous aurez une photo qui va devenir bruitée, qui ne sera pas très jolie. Si vous devez récupérer une photo dans Photoshop, je crois que la meilleure technique, c'est de la passer en noir et blanc et d'avoir une photo sans couleur, mais également sans défaut. Enfin, dernier conseil, en matière de balance des blancs, il faut raison garder. Le but, c'est d'avoir des photos et pas de passer son temps à photographier des cartes grises pour avoir des mesures tout à fait précises. tout au début que j'ai découvert la balance des blancs, j'avais de gros problèmes parce que j'étais pas du tout satisfait des couleurs de mes photos en intérieur. Et grâce à la balance des blancs, j'ai complètement résolu le problème. Mais je suis tombé dans l'excès contraire. Je me baladais tout le temps avec ma carte Kodak et avant chaque photo, je remesurais la couleur sur ma carte Kodak. Finalement, ça ralentit terriblement. En final, ça ennuie terriblement les modèles, ça enlève beaucoup du plaisir de la photo, c'est pas le but. Je répète, la technique la plus raisonnable, c'est d'apprendre à connaître son appareil et de corriger les choses quand on sait qu'il va être mis en difficulté. Et pour le reste du temps, laissez-le bien fonctionner avec ses automatismes. À la limite, prenez la peine de prendre une mesure si la photo est vraiment importante, mais ça ne mérite pas, la plupart des photos ne méritent pas qu'on fasse une mesure de balance des blancs juste avant de la prendre. D'autant plus que la source lumineuse ne change pas si vite que ça. Si en début de soirée, vous photographiez une carte grise pour avoir la balance des blancs correcte, à la fin de la soirée, la balance des blancs n'aura pas changé. Donc c'est pas la peine de remesurer entre chaque prise de vue. Voici qui conclut l'épisode numéro 1. Vos commentaires, vos remarques, vos suggestions sont les bienvenus. Si vous avez des thèmes à proposer ou des questions à poser par rapport au thème de cet épisode, n'hésitez pas à laisser également un petit commentaire. Si vous avez des compléments d'informations à apporter sur la balance des blancs, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et enfin, si vous trouvez que le podcast est intéressant, laissez-moi un petit mot d'encouragement, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez laisser vos commentaires soit sur le site web www.declencheur.com, donc l'adresse est facile à retenir. Là, vous pouvez taper un message, un petit texte qui contiendra donc votre commentaire. Si vous voulez laisser un message vocal, il faut appeler la boîte vocale de Déclencheur. Les commentaires vocaux seront eux aussi repris sur le site web. Et j'ai cherché une solution qui soit très pratique, qui ne demande pas de matériel informatique et surtout qui vous permette de laisser un commentaire où vous vous trouviez. Donc si vous êtes en train d'écouter le podcast avec un baladeur MP3, il suffit de sortir votre portable, de composer le numéro que je vais vous donner dans un instant et vous pourrez laisser votre commentaire qui se retrouvera rapidement sur le site web de Déclencheur. Les numéros d'appel, en France, c'est le 08 92 23 03 22 à 34 centimes d'euros la minute. On vous demandera un code service et le code service de Déclencheur est le 8208. En Belgique, c'est le 0902 88 128 à 74 centimes d'euros la minute. Et là aussi, il faudra saisir un code service, le 8208. En Suisse, le numéro est le 0901 701 705 à 2,50 francs la minute. Et le code service reste le 8208. Attention, si vous laissez un commentaire vocal, vous devez confirmer votre commentaire avant de raccrocher. Donc prenez bien la peine d'écouter les instructions. Je rappelle que les commentaires vocaux seront repris sur le site web et les meilleurs commentaires vocaux, c'est bien l'intérêt de laisser des commentaires vocaux, pourront passer directement dans le podcast. Il me reste à vous remercier de votre écoute. Si l'épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur le site web www.declencheur.com. Abonner, c'est complètement gratuit. C'est en fait le terme qu'on utilise avec les podcasts pour dire que vous recevrez automatiquement les nouveaux épisodes dès qu'ils seront sortis. L'accompagnement musical de cet épisode nous était fourni par Gary Tinkelenberg avec son morceau Clear Music 2, comme d'habitude disponible sous licence Creative Commons. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Déclencheur, le podcast qui parle photo.